Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ces chants, ces cantiques qui nous présentent Jésus-Christ. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole du Seigneur. Nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 3. Matthieu 4. Verset 3, il est écrit « Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et on va ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 25, même à partir du verset 24. Jean 6, 24, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, travaillés, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Amen. C'est un texte que je pense que nous qui avons l'habitude de lire la parole de Dieu, nous aimons. En tout cas, c'est un texte qui est venu sur mon cœur et on va le parcourir ensemble. À travers de cet enseignement, je pense que Jésus voulait vraiment nous communiquer. Nous avons lu dans l'évangile de Matthieu un premier texte qui pourra revenir au cours de ce message, mais on va s'arrêter quelques instants dans ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 6 au verset 26 lorsque Jésus répond à cette foule, à ces gens, à ces personnes qui étaient là. Ce passage vient après des miracles, lorsque Jésus a multiplié le pain. Il y avait là, dans l'esprit de cette foule et des gens qui venaient à la rencontre de Jésus, des questions. Et les gens voulaient revoir Jésus-Christ. Et Jésus va discerner leurs besoins, parce qu'ils vont dire, mais vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé, parce que vous avez été rassasiés. Et on comprend au travers de ce que Jésus-Christ va dire que la foule cherchait Jésus, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est étonnant parce qu'ailleurs, on voit des personnes qui cherchaient de Jésus en lui disant « mais fais des miracles ». Et Jésus ne va pas répondre de cette même manière, mais en tout cas, pour cette foule, Jésus va leur mettre devant eux cette réalité que finalement, ils cherchent Jésus, mais pas pour la bonne raison. Ils cherchaient Jésus juste parce que Jésus-Christ avait satisfait un besoin humain. On pourrait dire, avec un langage biblique que peut-être nous avons l'habitude d'entendre, Jésus avait satisfait leur chair, mais pas le côté spirituel. Et c'est pour cela que Jésus met en avant le fait qu'ils n'ont pas prêté attention au miracle. Ils n'ont pas prêté attention au miracle. Autrement dit, s'ils avaient prêté attention au miracle, on aurait pu dire que forcément, ils auraient dû prendre position parce que le miracle appelle au divin. Et lorsque nous sommes confrontés au divin, on est confronté à une réalité que notre entendement est obligé de voir ou d'accepter ou de refuser. En tout cas, cette foule, eux, n'ont pas prêté attention au miracle. On pourrait dire qu'ils ont rejeté le divin parce qu'ils voulaient Christ seulement pour satisfaire leur vie. leur chair, satisfaire leurs désirs. Il y a ce passage dans le psaume 78 qui fait quoi ce texte, et ce psaume 78 est marquant parce que il relate vraiment, si vous voulez, un résumé du peuple d'Israël. Vous allez dans ce psaume, et comme il est question de la manne, ce psaume est venu, et regardez ce qu'il est écrit: quand il est frappé de mort, il le cherchait. Quand Dieu frappait, autrement dit, quand Dieu était contre le peuple, n'était pas d'accord avec le peuple d'Israël, la mort était là. Et à ce moment-là, il le cherchait. Le peuple d'Israël cherchait Dieu. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche, il lui mentait de la langue, leur cœur n'était pas ferme envers lui et n'était pas fidèle à son alliance. Et c'est un petit peu ça, on pourrait dire, pour cette foule, ce qui est là relaté dans ce psaume, fait écho avec l'état d'esprit de cette foule. Ils cherchent Jésus, non pas parce qu'il y avait là un besoin vital pour le salut de leur âme. Et ça nous renvoie à cette question qui est là, qui est fondamentale dans notre vie, mais comment est-ce qu'on cherche Jésus ? On l'a entendu dans l'introduction de ces chants. Est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a envie de chercher? Et comment est-ce qu'on cherche Jésus-Christ? Est-ce qu'on cherche Christ simplement pour satisfaire notre vie, nos envies, nos besoins, nos besoins peut-être qui sont fondés? On parlait tout à l'heure de besoins matériels que Dieu peut nous bénir, peut nous combler, mais est-ce que c'est là qui définit uniquement notre recherche de Jésus-Christ? Est-ce que c'est cela qui doit toujours demeurer en fond? Et dans ce chapitre 6, vraiment, dans ces versets que nous avons lus, nous avons là tout le cheminement de Jésus-Christ, enfin le cheminement qu'il voudrait que la foule puisse avoir pour les mener vers un point culminant. Et le point culminant, même si je prends d'avance sur le message, je pense que vous vous en doutez, c'est la croix. Et je pense que Christ voulait amener la foule à considérer peut-être ce que eux ils ont fait comme expérience, comme une expérience qui était là, on pourrait dire peut-être charnelle, même si le mot est maladroit, pour répondre à un besoin physique. Mais Jésus voulait leur amener à considérer que leur âme avait un besoin, que leur vie avait un besoin, que leur existence avait un besoin. Ils devaient considérer que finalement, ils devaient s'attarder au miracle plus qu'au résultat du miracle, parce que c'est le miraculeux, c'est le divin qui doit nous interpeller, parce que c'est le salut de nos âmes qui doit nous interpeller plus qu'autre chose. Il y a un autre texte dans l'évangile de Luc qui reprend un peu cette pensée. Vous savez, les hommes religieux vont interroger Jésus, et Jésus va vouloir leur poser lui aussi une question. Il va dire, mais avant de vous répondre, je veux vous poser cette question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? C'est une question simple. Et en eux-mêmes, ils vont raisonner. La Bible dit, mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et c'est ça, c'est vraiment cette pensée, je pense, que Christ voulait refléter. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez été rassasiés. Parce que si on parle de miracle, il faut qu'on parle de Dieu. Il faut qu'on parle de Jésus, il faut qu'on parle du salut de votre âme. Et l'être humain est sans cesse confronté à ce dilemme. Parce que si il s'attarde au fait que Christ existe, il est obligé de s'attarder sur le fait que sa vie, que notre vie est remplie de péchés, et sous-entendu qu'on a besoin de salut. Et ce choix-là, c'est un choix qui est constant devant nos yeux, et on comprend mieux pourquoi, à un moment donné, dans la parole de Dieu, Jésus va dire « Mais veux-tu être guéri ?» On pourrait dire « Mais veux-tu le salut ?» Veux-tu connaître la vie, la vraie vie? Veux-tu connaître la vie éternelle? Je me souviens de, sur Nice, on m'a raconté ce témoignage parce que ça s'est passé il y a de ça de nombreuses années. C'était dans une réunion comme celle-ci. À la fin de la réunion, au moment d'imposition des mains, des personnes sont guéries. Il y avait là des miracles. Et un pasteur qui était là, qui avait fait l'accueil, qui avait placé les gens dans la salle, avait regardé une personne qui était là et qui avait besoin de la prière. Il va voir cette personne en lui disant « Mais monsieur, est-ce que vous ne voulez pas vous aussi vous approcher? Vous pouvez être guéri. » Et cette personne lui répond « Ah mais non, surtout pas, ça pourrait marcher. » Alors le pasteur, il ne comprend plus, il dit « Mais oui, mais justement, allez-y. » Il dit « Ah mais non, parce que je vais perdre mon indemnité. » Je vais perdre mes allocations. Et ça reflète vraiment ce qu'il y a dans le cœur humain. On est obligé de considérer, on a ce devoir de considérer ce que Christ nous apporte, là où il veut nous emmener, parce que dans notre vie, on a ce besoin de considérer qu'est-ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut passer une vie à satisfaire nos désirs, ou est-ce qu'on veut s'intéresser peut-être d'un peu plus près à ce que Christ veut faire? J'avais noté cet autre passage. C'est lorsqu'il est question d'un aveugle qui se nomme Bartimée. Il va être interrogé parce que Jésus va le guérir, et les pharisiens, les hommes religieux de l'époque vont l'interroger, et il va dire si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et c'est toujours dans cette même pensée que cette foule s'est attardée plus au résultat qu'au miracle. Et lorsqu'on prend le mot « venez », si cet homme ne venait pas, la traduction, le sens vraiment littéral de « venez », on pourrait le traduire par « je suis ».« Je suis ». C'est comme s'il y avait dans cette phrase la déclaration, la profession de foi de cet homme, comme pour dire « mais Christ est celui qui est ». Christ est le « je suis ». Et on le verra un peu plus tard, c'est « je suis le pain de vie ». Il y a eu sept paroles où Jésus-Christ va pu dire « je suis ». Et en tout cas, il a voulu proclamer pour ce texte, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, « je suis le pain de vie ». Après ce passage, Jésus-Christ, toujours vraiment dans cette démarche pour faire évoluer, pour amener les personnes à considérer qu'ils avaient besoin du salut, pour les amener à considérer qu'il y avait plus que le fait qu'ils aient bien mangé, il y avait plus que cela. Il va leur dire, mais travaillez non pour la nourriture qui est périe, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Autrement dit, il faut que vous vous concentrez sur cette nourriture, sur une nourriture qui ne va pas périr. Et l'apôtre Paul va reprendre cette même pensée lorsqu'il va dire, mais bien-aimés, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. On pourrait dire, mais œuvrez. Agissez pour comprendre, pour aller vers le salut. Comprenez les choses d'en haut, comprenez les choses divines, afin que vous puissiez saisir qu'il est peut-être plus important de considérer que l'homme ne doit pas seulement rechercher ce qui va nourrir sa vie d'un point de vue physique, mais que l'homme a ce devoir, parce qu'il y a en lui cette pensée de l'éternité, il a le devoir de comprendre qu'il y a peut-être autre chose qui peut le nourrir et qui peut lui donner la vie, mais une vie éternelle. Et Jésus va mettre pas en confrontation, mais en opposition ces deux réalités. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a fait durant son ministère terrestre, en prenant des réalités physiques que tout le monde peut comprendre pour exprimer des réalités spirituelles profondes. Autant le corps a besoin de nourriture pour vivre, autant notre âme a besoin de Christ pour vivre. Autant nous avons besoin de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous séparés d'avec le Père, que nous sommes tous éloignés de cette communion, qu'il y a un abîme qui n'a pu être comblé que par Jésus-Christ seulement. On continue. Vraiment, on partage ensemble ce cheminement que Jésus-Christ a voulu offrir à cette foule. Il va les amener sur une question qui, je pense, a touché tous les êtres humains à un moment donné, qui s'est posée lorsqu'il va parler des œuvres de Dieu. Et je pense que lorsque Christ a abordé cette question, la foule était là, on lui dit, mais peut-être que s'il est question des œuvres de Dieu, peut-être qu'on peut gagner. On peut gagner l'approbation de Dieu dans notre vie, par les œuvres. On peut faire des choses qui vont lui être agréables. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'il faut travailler? Puisqu'il faut travailler pour une nourriture qui ne périt pas. Est-ce que nous pouvons, par nos bonnes actions, gagner l'approbation de Dieu? C'est cela qu'il en est question. Est-ce que, parce que j'ai une bonne conscience, c'est cela qui va m'approcher, qui va m'ouvrir les portes, qui va m'ouvrir cet accès auprès de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'ai un bon comportement, parce que j'aime donner aux œuvres caritatives? Est-ce que c'est parce que j'aide mon prochain que c'est cela qui va m'accorder le pardon de mes péchés, qui va m'accorder cette proximité avec Dieu? Et Christ va les amener sur le terrain, et c'est sur cette question qui est primordiale, et cette question qui va bouleverser leur existence et qui doit bouleverser notre existence, parce qu'il va remettre vraiment les bases en leur disant, mais l'œuvre de Dieu, c'est la foi. L'œuvre de Dieu, la première des œuvres, ce que vous devez faire, ce par quoi vous devez passer avant de considérer toute autre chose, c'est que vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Vous devrez croire en Christ. Et là, ça rétablit un petit peu l'ordre. Parce que l'être humain se retrouve confronté à lui-même, à sa personne. L'être humain se retrouve confronté au fait que quand bien même il peut essayer, il veut essayer de bien faire, il ne pourra jamais combler cet abîme. Seul Christ a su combler, a su offrir sa vie pour qu'il n'y ait plus de fossé, de séparation entre Dieu et sa créature. Et l'œuvre pour laquelle il est venu accomplir, c'est l'œuvre de la croix, et c'est cette œuvre qui nous laisse ce libre accès auprès du Père. Et nous devons y rentrer, non pas parce que nous sommes une personne extraordinaire, non pas parce que nous nous croyons parfaits, sans défaut, parce qu'on peut dire, mais moi, ma vie, elle est nickel, ma vie, elle est sans problème, je travaille, je paye ce que je dois payer, j'ai une famille, je m'occupe de ma famille, on pourrait multiplier les exemples. La seule chose qui peut faire la différence dans notre vie, et c'est cette chose-là qui sera toujours et qui demeure, c'est la foi. Il faut qu'on puisse croire, il faut qu'on croie en celui que Dieu a voulu envoyer pour qu'il y ait cette réconciliation avec le Père. Dans l'Ancien Testament, il y a ce passage, il s'agit de Naaman, c'est un texte que je pense aussi qu'on connaît bien, c'est dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5. Je vais juste vous lire un verset, ce qui peut illustrer le fait que l'homme a toujours cette idée de vouloir par ses propres moyens, parce que ça le conforte dans cette idée que finalement il n'est pas si mal, que finalement s'il fait des efforts, il pourra arriver toujours à s'en sortir, à discuter avec Dieu, que finalement il pourra arriver par son éloquence ou que sais-je, à gagner Christ. Et ce texte nous relate, on ne peut pas voir tout le contexte, mais en tout cas, il s'agit de quelqu'un qui était atteint de lèpre. Il y a une petite fille qui va rendre témoignage que si elle allait vers un prophète, il pouvait être guéri. Une lettre de recommandation est envoyée au roi d'Israël. Le roi d'Israël s'effondre quand il apprend ça. L'homme de Dieu, lui, sait qu'avec Dieu, tout est possible. Mais Naaman, cet homme qui était touché de lèpre, va réagir d'une mauvaise façon. Parce que quand l'homme de Dieu va lui dire « Voilà, la solution pour toi, c'est de te plonger 7 fois dans le Jourdain », il va être en colère. Il va être blessé dans son orgueil. Il va être blessé parce que peut-être qu'il s'imaginait qu'il y avait les œuvres de Dieu à faire, qu'il pourrait lui accorder cette guérison. Et son entourage va bien le conseiller parce qu'ils vont dire « Mais mon père, si le prophète... tu demandais quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait? Combien de plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Et cette façon de penser demeure et était peut-être dans cette foule qui avait vu ce miracle, mais qui s'était attardée uniquement sur le fait qu'ils ont été rassasiés. Si Dieu nous demandait des choses difficiles, est-ce que peut-être que ça ne nous rassurerait pas en disant « mais peut-être que si j'y arrive, ça va aller pour ma vie ». Si Dieu nous demandait des choses qui seraient tellement usantes pour notre vie, peut-être qu'on pourrait se dire « mais ça y est, je mérite enfin le pardon ». Mais Christ est venu non pas pour que nous puissions avoir quoi que ce soit par rapport à nos mérites, puisque la Bible dit que tous sont pécheurs. Que nous sommes tous sous la condamnation, que le salaire du péché, c'est la mort, que notre direction, c'était cette mort. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il a dit, mais l'œuvre, c'est que vous puissiez avoir la foi. Ce qui fera la différence, c'est la foi. La seule question qui doit demeurer, c'est est-ce que j'ai la foi ce soir? Est-ce que j'ai la foi en Jésus? En Jésus-Christ, est-ce que j'ai cette foi qui pourra me dire « Oui, je peux sortir de ce lieu purifié, je peux sortir de ce lieu complètement lavé de mes péchés, je peux sortir de ce lieu, pour nous qui avons fait cette expérience depuis quelque temps déjà, je peux sortir de ce lieu rassasié, je peux sortir de ce lieu rempli du Saint-Esprit, je peux sortir de ce lieu en ayant la réponse à mes questions, en ayant une direction pour ma vie ?» Est-ce que nous sommes venus avec une interrogation, une question, ou est-ce que nous sommes venus en disant « peut-être que c'en est ainsi », peut-être que même vous êtes venus en vous disant « je vais me rassasier de ce qu'il y a », pour reprendre une expression qu'il y a dans la Bible, de me rassasier des miettes. En tout cas, ce qui compte, c'est que nous puissions avoir la foi. La foule va leur dire, tes enseignements, je paraphrase un petit peu, tes enseignements c'est bien, mais quel miracle? Quel miracle fais-tu donc pour que nous le voyons? Comme ça nous allons pouvoir croire. Quel miracle? Autrement dit, mais prouve ta venue, prouve que tu avais besoin de venir, prouve que nous avons réellement besoin de ce pain de vie, prouve-le. Et c'est quelque chose qui est frappant et qui pourrait, Jésus-Christ, je pense, aurait pu mal le prendre, si vous comprenez bien ce que je veux dire ce soir, parce que le but de sa venue, ce n'était pas de faire miracle sur miracle. Le but de sa venue, ce n'était pas simplement de combler peut-être les manques qu'il y a dans notre cœur. Ça, si je puis dire, c'est le plus. Mais le but de sa venue, c'était de nous accorder le pardon de nos péchés. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Parce que, comme je ne cesse de le dire, il y avait cette fracture. Et cette fracture ne pouvait être réparée que par Jésus seul. Il pouvait y avoir beaucoup de sacrifices. Dans l'ancien temps, on parlait de sacrifices. Les bêtes étaient immolées, étaient offertes en sacrifice pour avoir le pardon des péchés. Et il y a ce texte dans le livre des Hébreux qui m'a vraiment touché. Il est écrit « Le souvenir des péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices ». Il y avait là les ordonnances, c'était Dieu qui avait institué ça, mais c'était comme une ombre pour parler de Jésus-Christ, pour dire, mais après, il y aura quelque chose de mieux. Après, vous allez voir, il y aura enfin cette paix et cette joie. Après, vous n'aurez pas besoin de demander, mais quel miracle, pourquoi ? Prouve-nous que tu avais besoin de venir, parce que le péché était la preuve que nous avions besoin de Jésus-Christ, parce que le péché, le souvenir du péché était renouvelé, nous avions ce souvenir en nous chaque année. Quand bien même nous faisons peut-être des efforts par nos propres moyens, nous disons « mais je veux être quelqu'un de bien, je veux arriver à faire honneur à Dieu ». Vous savez, on peut arriver dans ce mode de pensée où on essaye d'être agréable à Dieu par nos propres moyens, mais peut-être le souvenir de nos fautes revient sans cesse, chaque année. Ce n'est pas ça qui peut changer notre vie, ce n'est pas nos propres efforts qui peuvent faire la différence, ce n'est pas en demandant un miracle à Jésus-Christ en lui disant « mais prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu es capable d'agir, prouve-moi ceci ou cela », parce que Christ l'a déjà prouvé. Parce que Christ l'a prouvé lorsqu'il est venu dans ce monde. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est littéralement vidé de ce qu'il était. Il s'est retiré, il s'est vidé de sa gloire pour venir dans ce monde, pour venir habiter avec nous, pour comprendre l'être humain, pour nous comprendre, pour me comprendre, pour qu'il puisse offrir ce sacrifice. Si tu as le souvenir de ton péché qui revient, peut-être chaque année, c'est une image, on pourrait dire jour après jour, semaine après semaine, si tes efforts ne peuvent pas combler ce vide, si tes efforts ne peuvent pas t'amener à ce que ton péché soit comme oublié, laisse-moi te dire que c'est parce que seul Jésus-Christ peut le faire. Parce que Jésus-Christ a payé, parce qu'il a voulu offrir sa vie sur le bois de la croix volontairement pour que nous puissions dire « Oui, effectivement, Seigneur, mon péché est oublié, mon péché a été jeté loin dans la mer, dans les profondeurs. » Pour Dieu, je ne suis plus condamné, je ne suis plus un étranger, je suis dans sa présence, c'est cela que Jésus-Christ veut nous offrir. Ce chapitre 6 vraiment est un cheminement dans lequel la foule devait rentrer pour considérer le but de la venue. Et l'apogée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la croix. Jésus-Christ voulait parler de la croix lorsqu'il va prendre en comparaison en leur disant « mais voilà vos pères ». Peut-être vous avez connu Moïse, vous a parlé, ce n'est pas Moïse qui vous a donné la manne, mais mon père. Il a pris cette image parce que le peuple d'Israël a connu, et dans l'esprit de cette foule, dans l'esprit des Juifs, dans l'esprit de la religion. Oui, avant il s'est passé des choses, avant il y a eu des choses extraordinaires, mais aujourd'hui Jésus-Christ est en train de leur dire, oui, mais aujourd'hui il n'est plus question d'une manne qui a conduit, qui a nourri un peuple. Et d'ailleurs il va reprendre cette expression en disant, oui, mais vos pères qui ont mangé la manne, eux sont morts. Sous-entendu, ce n'est pas ça qui a su combler leur vie. Ce n'est pas ça, comme on a lu tout à l'heure un petit passage dans ce psaume 78, où nous avons vu que malgré les bénédictions, le peuple d'Israël n'a jamais réussi à suivre leur Dieu, n'a jamais réussi à tenir leurs engagements, parce que l'homme de lui-même ne peut pas tenir les engagements. Parce que nous avons besoin de saisir peut-être ce soir que si nous sommes dans la sainteté, si nous pouvons accéder à cette sainteté parce que Dieu est saint, c'est parce que Christ s'est fait sanctification, c'est parce qu'il a tout donné de choses, tout ce qui devait être utile à notre piété, tout ce qui pouvait être utile pour notre vie spirituelle, pour que nos fondements soient bâtis sur ce rocher, ce solide rocher. Jésus-Christ va dire « Mais je suis le pain de vie ». Je suis, si vous avez compris que vos pères ont eu besoin de manne pour vivre, vous devez comprendre qu'aujourd'hui vous avez besoin du pain de vie pour pouvoir subsister dans ce monde. Vous avez besoin de comprendre que comme la manne était donnée jour après jour pour le peuple d'Israël et une portion double la veille du sabbat, vous devez comprendre qu'aujourd'hui vous devez avoir besoin du pain de vie jour après jour pour rester dans ce monde, pour subsister dans ce monde, dans la sainteté, dans la pureté, pour faire la différence dans ce monde, pour dire « mais moi je ne veux pas être comme le monde » parce que la croix est là pour marquer une séparation entre nous et le monde. La croix a marqué cette séparation. La croix est venue comme pour proclamer la victoire de Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et la dernière fois, je lisais un commentaire et lorsqu'il est dit que Christ les a livrées publiquement en spectacle, cette image qui est donnée, c'est lorsqu'un roi revenait d'une campagne. Et vous savez, derrière le roi, il y avait le cortège de tous les prisonniers. De tous les rois qui ont été faits prisonniers, capturés, de l'armée qui a été capturée. Lorsque le roi rentrait dans sa ville, il y avait tout ce cortège derrière lui, comme pour montrer sa victoire. Et lorsqu'il est écrit que Christ a dépouillé, qu'il a livré en spectacle, qu'il a remporté cette victoire, c'est cette même image où Christ marche triomphant en ayant derrière lui les dominations, l'esprit du monde, le malin qui est vaincu parce qu'il a tout accompli sur le bois de la croix. Oui, nous voulons dire « je veux ce pain de vie ». Comme cette foule a pu dire, même s'ils n'ont pas tout compris, ce soir on veut dire « mais oui Seigneur, je veux ce pain de vie, je veux encore plus de toi, je veux faire des progrès dans ma vie spirituelle, je ne veux pas me passer une journée de ta parole, je ne veux pas me passer une journée de la communion que tu m'offres, de cette relation extraordinaire, oui, je veux ce pain de vie ». Et pour reprendre, après quoi je terminerai, ce que nous avons chanté, vous savez, Jésus-Christ va dire « mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Je ne mettrai pas dehors. Il y a des personnes qui pensent que Christ, c'est que pour les autres. Il y a des personnes qui n'osent pas s'approcher de Jésus-Christ parce qu'ils se sentent, ils disent « non, mais je suis trop sale ». Je ne peux pas avoir le pardon de mes péchés, je suis trop mal, Christ ne m'acceptera pas. Et lorsque Jésus dit ça, et peut-être dans la foule, il y a des personnes qui ont dit, mais oui, mais on a mal compris. Peut-être que parce qu'on a mal compris, Jésus ne va pas nous accepter. Parce qu'on a recherché plus la bénédiction matérielle que le fondement de la vie spirituelle, Jésus ne va pas nous accepter. Parce qu'on n'a pas compris son enseignement, parce qu'on est passé à côté, peut-être une journée, vous êtes passé à côté d'une promesse de Dieu, peut-être que vous êtes passé à côté de ce que Dieu vous demandait une fois, et peut-être que c'était le cas de certaines personnes dans la foule. Alors ils se sont dit, c'en est fini pour moi. Et Jésus est là dans sa tendresse, et peut-être c'est une parole qu'il redit encore ce soir, et dit, mais je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. Je ne vais pas le mettre de côté. Si tu t'es trompé dans ta vie, si tu n'as pas su entendre la voix de Dieu, si tu, à un moment donné, Dieu te demandait quelque chose et tu es passé à côté et que tu reviens dans un esprit de repentance, il y a cette phrase qui résonne ce soir en disant « mais je ne vais pas te mettre de côté, je ne vais pas te mettre dehors, je ne vais pas te rejeter parce que Jésus sait que nous sommes faits d'une nature qui est comme semblable à cette vapeur d'eau qui monte, à une vapeur. » Semblable à quelque chose qui est tellement éphémère, tellement volatile, tellement fragile. Et la sensibilité de Jésus, c'est de dire, mais venez à moi, venez, je suis capable de vous restaurer, je suis capable, là, peut-être dans une promesse où il y a eu des années qui sont passées, je ne sais pas, vous savez, on peut vivre des choses, on peut avoir des promesses, ça m'est arrivé pour ma vie, et je pense ne pas être le seul à avoir une promesse et voir sa réalisation des années, comme pour dire, mais la fidélité de Dieu est toujours présente. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour qu'après il puisse nous dire « je te mets de côté ». Jésus n'est pas venu, n'a pas parlé à cette foule pour que cette foule se sente condamnée, mais juste pour que cette foule se sente reprise en elle-même, pour qu'il y ait la repentance qui mène au salut, pour qu'il y ait cette repentance qui mène à la bénédiction. Si on a fait quelque chose de mal, si on se sent repris, c'est l'Esprit de Dieu et c'est la sensibilité de notre Sauveur qui est là pour nous montrer que la bénédiction qu'on va avoir est supérieure à ce qu'on peut ressentir. Ce qu'on peut expérimenter avec Christ n'a pas de limite. Ce qu'on peut voir de sa part n'a pas de limite. Seulement notre foi. Seulement notre foi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je terminerai en disant, en reprenant ce que les disciples vont dire, parce que Jésus va continuer son enseignement sur le fait qu'il est le pain de vie en disant, mais celui... Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est des images extraordinaires pour dire qu'il est capable de nous rassasier, il est capable de nous pardonner, il est capable de nous guérir, de nous restaurer, en tout temps maintenant notre identité. Il n'est pas venu pour nous bousculer, pour détruire ce que nous sommes et pour magnifier ce que nous sommes, comme pour embellir par sa personne ce que nous sommes, pour nous façonner à son image, pour que nous puissions porter ce beau témoignage. Et il va continuer cette exhortation, cet enseignement, et les disciples vont dire, mais cette parole est dure, c'est difficile ce que tu dis, c'est difficile lorsque Jésus va dire, mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, lorsqu'il va prendre ces images qui peuvent sembler peut-être violentes, incompréhensibles au premier abord, comme pour dire, mais seul le sacrifice de Christ, seule notre identification avec Christ, seule la repentance peut nous amener à cette vie abondante. Et les disciples vont dire, mais c'est trop dur ce que tu dis, c'est dur. Et quelques-uns vont partir même à partir de ce moment-là, comme pour dire, mais je rejette cela. Quelques-uns vont tourner le dos à Christ pour continuer dans le monde. Et Jésus va poser cette question, et je terminerai avec cette question. Il va dire, et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? Et cette question, je pense qu'elle est en suspens ce soir. Et vous, et nous, et toi et moi. Est-ce qu'on veut continuer avec Christ? Est-ce qu'on veut marcher avec Jésus-Christ, même si quelquefois il y a des paroles dures, même si effectivement ça peut être dur d'entendre que nous sommes pécheurs? Ça peut être difficile d'entendre que notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Ça peut être difficile d'entendre que peut-être qu'on se trompe de chemin, toujours en considérant l'amour de Christ. Mais cette parole est vous. Et vous, c'est une question qui est là, et je voulais terminer avec cette question de Christ, parce que c'est une question pour chacun d'entre nous. Et nous, est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on va rentrer chez nous en disant, mais oui, ça a été une réunion comme une autre, ou est-ce qu'on va rentrer chez nous peut-être en considérant davantage ce que Jésus veut pour notre vie? Pierre va répondre, et je pense que nous tous qui pouvons répondre de la même réponse que Pierre, nous sommes heureux, nous sommes bénis. C'est une parole, on en a fait un chant, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Si nous pouvons dire cela, nous sommes bénis. Mais tout en connaissant cela, est-ce que, et vous, je terminerai vraiment avec cette question de Christ parce que c'est une question qui est restée sur mon cœur. Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ou ce soir, est-ce que nous voulons dire non, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Non, Seigneur, tu es mon pain de vie. Je ne veux pas me rassasier dans ce monde. Je ne veux pas aller chercher ailleurs qu'en toi la réponse, la solution à mes problèmes. Je ne veux pas aller ailleurs qu'en toi parce que je sais que tu as les paroles de la vie éternelle, parce que je sais que tu peux combler ma vie. Et vous? Amen, on prie un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Oui, Seigneur. Nous voulons considérer tes enseignements, là où tu veux nous amener. dans ce cheminement spirituel. Nous voulons te chercher pour qui tu es. Tu es le Rédempteur, celui qui est capable de nous sauver. Oui, tu as tout accompli sur le bois de la croix. Et nous voulons aller plus loin avec toi. Oui, nous voulons répondre à cette question. Nous voulons te suivre, continuer avec toi. Même si cela peut être difficile dans nos vies, même si nous sommes confrontés à ce que nous sommes, quelquefois nous sommes face à nous-mêmes et cela peut nous plonger dans le désespoir ou que sais-je, mais en toi nous avons cette nourriture spirituelle. Oui, nous voulons demeurer en toi, nous voulons rester attachés en toi pour porter du fruit. C'est là notre prière, nous voulons aller plus loin avec toi. Oh Père, s'il y a là peut-être une personne qui hésitait, peut-être une personne qui se disait non, je ne vais pas continuer, c'est trop dur. Oh, ramène-la dans tes bras d'amour, Père, s'il te plaît. Que nous puissions ensemble être prêts au jour où Jésus-Christ va revenir. C'est là notre désir, c'est là notre souhait. Et nous voulons travailler à notre salut. Nous voulons travailler pour toi, pour ton royaume. Nous voulons considérer que ta parole est la vérité. Et nous ne voulons pas nous écouter nous, mais t'écouter toi. Parce que tu as des paroles de la vie. Tout ce que tu dis, c'est esprit et vie. Merci mon Dieu pour toutes tes bontés et tes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.